131, à partir de la deuxième strophe.
Et on Première Épître à Timothée, chapitre 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon le commandement de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon véritable enfant dans la foi, grâce, miséricorde, paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. Comme je t'ai prié de rester à Éphèse lorsque j'allais en Macédoine, afin que tu ordonnasses à certaines personnes de ne pas enseigner des doctrines étrangères et de ne pas s'attacher aux fables et aux généalogies interminables qui produisent des disputes plutôt que l'administration de Dieu qui est par la foi. Or, la fin de l'ordonnance, c'est l'amour qui procède d'un cœur pur et d'une bonne conscience et d'une foi sincère, desquels quelques-uns s'étant écartés, se sont détournés à un vain babil, voulant être docteurs de la loi, n'entendant ni ce qu'ils disent, ni ce sur quoi ils insistent. Mais nous savons que la loi est bonne, si quelqu'un en use légitimement, sachant ceci, que la loi n'est pas pour le juste, mais pour les iniques et les insubordonnés, pour les impies et les pécheurs, pour les gens sans piété et les profanes, pour les batteurs de père et les batteurs de mère, pour les homicides, pour les fornicateurs, pour ceux qui abusent d'eux-mêmes avec des hommes, pour les voleurs d'hommes, les menteurs, les parjures, et s'il y a quelque autre chose qui soit opposée à la saine doctrine, suivant l'évangile de la gloire du Dieu bienheureux qui m'a été confié. Et je rends grâce au Christ Jésus, notre Seigneur, qui m'a fortifié, de ce qu'il m'a estimé fidèle, m'ayant établi dans le service, moi qui auparavant étais un blasphémateur et un persécuteur et un outrageux. Mais miséricorde m'a été faite, parce que j'ai agi dans l'ignorance, dans l'incrédulité. Et la grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. Cette parole est certaine et digne de toute acceptation, que le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont moi je suis le premier. Mais miséricorde m'a été faite à cause de ceci, savoir afin qu'en moi, le premier, Jésus-Christ montra toute sa patience afin que je fusse un exemple de ceux qui viendront à croire en lui pour la vie éternelle. Or, qu'au roi des siècles, l'incorruptible, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée, selon les prophéties qui ont été précédemment faites à ton sujet, afin que par elle tu combattes le bon combat, gardant la foi et une bonne conscience, que quelques-uns ayant rejeté, ils ont fait naufrage quant à la foi, du nombre desquels sont Hyménée et Alexandre, que j'ai livrés à Satan, afin qu'ils apprennent à ne pas blasphémer.
La première fois qu'il est fait mention de Timothée, c'est dans les Actes des Apôtres, au chapitre 16, si nous pouvons lire. Au premier verset, « Et il arriva à Derbe et à Lystre, c'est l'apôtre Paul, et voici qu'il avait là un disciple nommé Timothée, fils d'une femme juive croyante, mais d'un père grec, lequel avait un bon témoignage des frères qui étaient à Lystre et à Iconium. Paul voulut que celui-ci allât avec lui, et l'ayant pris, il le circoncit à cause des Juifs qui étaient dans ces lieux-là, car tous ils savaient que son père était grec. C'est la première fois donc que Timothée est mentionné dans la parole de Dieu. Donc il était le fils d'un père grec et d'une mère juive, et nous savons que cette mère s'appelait, était nommée Eunice, ce qui nous est dit dans la deuxième épître à Timothée. Et Paul a été très certainement l'instrument de sa conversion, puisqu'à plusieurs reprises, l'apôtre appelle Timothée « mon enfant bien-aimé ». Et quand a-t-il été l'instrument de sa nouvelle naissance? On peut penser, mais ce n'est absolument pas certain, que c'est au cours de son premier voyage, donc à Lystre, qui est mentionné dans Acte 14, du verset 6 au verset 23. Et c'est au cours donc de son second voyage que Paul prend Timothée avec lui. Et vous pouvez noter que le nom de Timothée signifie « honneur de Dieu » ou « qui honore Dieu ». Et nous savons par la première épître à Timothée, ce qui nous a été lu, que ce jeune homme était destiné à un service particulier. Et il nous est parlé de prophétie à son égard, et il nous est dit aussi ailleurs qu'il avait reçu un don de grâce. Et ce jeune homme, ce jeune disciple, donc, avait un bon témoignage, verset 2 du chapitre 16 des Actes, avait un bon témoignage des frères qui étaient à Lystre et à Iconium. Et nous pouvons déjà noter que ce n'était pas un jeune chrétien, nous dirions, négligent ou indifférent, comme nous avons pu l'être nous-mêmes, aux prises avec les problèmes de la jeunesse, mais il semble que dès son jeune âge, dès sa conversion, il a eu les intérêts de Christ devant lui, et ses intérêts de Christ dans son cœur, et nous voyons que Paul va lui confier des missions ou une mission, et dans la première épître à Timothée, nous voyons qu'il va lui donner des conseils et des encouragements pour le travail que le Seigneur lui a confié. Nous avons donc lu le premier chapitre de la première épître à Timothée. Nous savons que l'apôtre a écrit des épîtres à des assemblées, mais il a aussi écrit des épîtres que l'on a appelées pastorales à des individus, à des croyants. Et Timothée, deux épîtres, Tite, une épître, l'épître à Philémon. L'apôtre Jean aussi a écrit deux épîtres pastorales. La deuxième épître de Jean est la seule épître qui est adressée à une sœur, à la dame élue. Et la troisième épître est adressée aussi à un croyant. Et ces épîtres pastorales dans la vie de Paul ont été écrites après son premier emprisonnement et avant son deuxième, ou au moment de son deuxième emprisonnement. C'est-à-dire que dans la vie de Paul, ces épîtres écrites tardivement, Paul avait connu bien des vicissitudes, des afflictions pendant sa vie, des persécutions. Et c'est un apôtre avec son expérience qui peut donner ses conseils à Timothée, à Tite et à Philémon. Et l'apôtre était donc pleinement compétent pour donner des directives à ces chrétiens qui étaient donc des collaborateurs et des délégués et qu'il chargeait donc de veiller sur la doctrine et de régler les affaires qui concernaient le bien-être et l'ordre dans les assemblées. Et les lettres qui ont été écrites par Paul, comme il se présente dès le début, ces lettres donc qui étaient adressées à Timothée par exemple ou à Tite, permettaient donc d'authentifier la mission qu'avaient reçue ces deux croyants par rapport aux assemblées qu'ils allaient visiter. Et donc c'était des sortes de lettres d'accréditation. Et donc la première épître à Timothée, eh bien c'est la première lettre d'accréditation qui authentifiait la mission de Timothée, en particulier pour l'assemblée à Éphèse, comme ça nous est indiqué au verset 3 du premier chapitre. Alors ce qu'on peut dire aussi, c'est que la première épître à Timothée est une épître essentiellement instructive. Les épîtres qui ont été écrites aux assemblées étaient, dans la majeure partie des cas, des épîtres correctives. C'est-à-dire que l'apôtre était amené à soulever des choses qui laissaient à désirer dans les assemblées et y donner donc un enseignement approprié pour que ces assemblées puissent ensuite être redressées. Alors la première épître à Timothée est donc une lettre instructive et elle nous présente essentiellement la maison de Dieu. La maison de Dieu dans un ordre qui est conforme à la pensée de Dieu. C'est-à-dire au fond que Dieu nous donne un modèle et un modèle du fonctionnement d'une assemblée. Et le modèle du fonctionnement d'une assemblée jusqu'à la venue du Seigneur. C'est-à-dire que Dieu désire que ceux qui composent la maison de Dieu, eh bien, aient la conscience que c'est sa maison, c'est la maison de Dieu. C'est une maison qui lui appartient, qui est à lui, et que nous en sommes ses hôtes, et donc que notre comportement, notre conduite, soit en rapport avec le fait que c'est sa maison. On a pu donner quelques pensées à propos des épîtres pastorales. On a dit que la première épître à Timothée est l'épître de la piété. La piété nous est présentée dans cet épître à plusieurs reprises. Et donc, la première épître à Timothée, c'est l'épître de la piété. Et dans la mesure où il y a la piété dans nos cœurs, eh bien, cela nous amène à bien nous conduire dans la maison de Dieu. La deuxième épître à Timothée, on a pu dire que c'était l'épître du courage. L'épître du courage parce que les choses se sont dégradées dans l'assemblée et l'état de ruine s'est installé. L'assemblée de Dieu est devenue une grande maison et dans un temps comme celui-là, un temps de ruine et de décadence, eh bien c'est le mot-clé, c'est le courage. Nous devons avoir du courage en face des problèmes qui surgissent dans une telle maison. L'épître à Tite, on a pu donner comme pensée directrice, c'est l'épître de la sobriété et de ce qui est saint, saint S-A-I-N, la saine doctrine, les saines paroles. Et donc, à travers déjà ces quelques mots, nous voyons que l'apôtre avait à cœur que ce qui compose la maison de Dieu, c'est le peuple de Dieu. Hein, nous faisons partie de la maison de Dieu. Hein, c'est tous les chrétiens actuellement sur la face de la terre qui sont nés de nouveau, sont le peuple de Dieu et ils composent la maison de Dieu. Et nous voyons que l'importance dans cette maison de la piété. Et c'est une nécessité de nous rapprocher de Dieu quand la vie spirituelle est en déclin. Et c'est un sujet sans doute que nous pourrons reprendre dans cette première épître. Pour donner une définition de la piété, c'est, on a dit, Dieu me parle, je l'écoute, je lui parle, il est avec moi, il est près de moi. Voilà les caractéristiques de la piété, c'est Dieu me parle, je l'écoute, je lui parle, il est près de moi, il est avec moi, il est près de moi.
Juste deux réflexions, deux remarques. On a souvent tendance, de par la manière dont Paul s'adresse à Timothée, comme là au verset 2, « Mon véritable enfant dans la foi », à avoir une image de Timothée comme étant jeune, peut-être même très jeune. Rien ne nous permet de l'affirmer qu'il était jeune, qu'il y a eu une différence d'âge, c'est presque certain. L'expression qu'utilise Paul, c'est plus pour exprimer une relation qu'une histoire d'âge. Et je dis ça par rapport au fait que Timothée est un croyant qui avait sa relation personnelle avec le Seigneur. Et quant au chapitre 16 des Actes, qu'on a vu tout à l'heure, Paul veut l'emmener avec lui comme compagnon de voyage. il s'ajoute à un groupe de personnes. Il y a essentiellement Silas qui est avec Paul à ce moment-là, mais on voit qu'à partir du verset après la vision, après que Paul ait eu cette vision, qu'ils sont arrivés en Troade, et que Paul a cette vision voyant cet homme macédonien, il nous est dit, verset 10, quand il eut vu la vision aussi, nous cherchâmes à partir. Nous, c'est Luc qui s'ajoute à ce groupe. Et on voit plus loin au chapitre 17, alors que Paul a dû partir de Bérée, être conduit pour partir de Bérée à cause des Juifs qui cherchaient des ennuis. Au verset 15, ceux qui conduisaient Paul le menèrent jusqu'à Athènes, et après avoir reçu pour Silas et pour Timothée l'ordre de le rejoindre plus tôt, ils partirent. Donc le chapitre 16, c'est le passage à Philippe, puis c'est à Thessalonique, puis à Bérée. Silas était là. Silas était là, il n'a pas été concerné directement quand Paul et Silas ont été jetés en prison, battus à Philippe, mais il était là, comme Luc. Et tout ce chemin, à travers ce voyage de Paul, on a Timothée qui est là, présent, qui a assisté. Paul fera cette remarque dans la deuxième épître qu'il lui écrit. Il lui dit, chapitre 2, deuxième épître à Timothée, chapitre 3, verset 10, « Tu as pleinement compris ma doctrine, ma conduite, mon but constant, ma foi, mon support, mon amour, ma patience, mes persécutions, mes souffrances, telles qu'elles me sont arrivées à Antioche, à Iconium, à Lystra, et quelles persécutions j'ai endurées. » Antioche, Iconium, Lystre, c'était avant, c'était ce que Michel a mentionné aussi, du chapitre 14. Donc c'est un croyant qui a son chemin, qui a une course avant de commencer son voyage, son service avec Paul. Et en ce sens-là, il nous faut lire cette lettre, non pas comme s'adressant à un jeune croyant qui est en début de sa course, mais comme un croyant qui est déjà dans un chemin affermi, mais qui, comme tout croyant, a besoin d'affermissement, et qui, comme tout serviteur, a encore, et comme tout croyant, comme tout disciple, a encore beaucoup de choses à apprendre. Mais ça nous donne un regard un peu différent que de se l'imaginer jeune, je mets des guillemets, débutant, si on peut dire, dans la marche de la foi. C'est pas ça, Timothée. C'est quelqu'un qui a déjà sa marche personnelle, ses exercices, sa foi, sa relation personnelle avec le Seigneur. Et il y a simplement cette relation qui vient à plusieurs reprises de Paul qui l'appelle « mon véritable enfant », une relation particulière entre Paul et Timothée. On aura l'occasion d'y revenir. Le deuxième point que je voulais juste évoquer, c'est quand on lit cette première épître, on voit qu'on a une alternance de paragraphes où Paul s'adresse directement à Timothée. Déjà là, au verset 3, « Comme je t'ai prié de rester à Éphèse lorsque j'allais en Macédoine, etc. » Il dit directement, c'est des choses pour Timothée, personnellement, à ce moment-là. Mais il y a d'autres choses, par exemple, à partir du verset 5, quand Paul parle du but de l'ordonnance, quand il parle après, à partir du verset 8, il redit d'une autre manière que c'est évoqué ailleurs, le rôle de la loi. Ce sont des choses qu'il dit à Timothée, mais qui ont une portée beaucoup plus générale. Ce sont des choses qui ne s'adressent pas directement à Timothée, mais qui s'adressent à chacun de nous, à chaque lecteur, à chaque personne, qui s'adressent à Timothée comme étant des choses pour tout le monde, dont il doit se souvenir et qui, à l'occasion, qu'il faut rappeler. Mais qui ne sont pas directement, concernant pas directement Timothée, mais concernant tout croyant. Et on a cette alternance tout au long de l'épître, entre ces passages, de nouveau au verset 18 par exemple, « Je te confie cette ordonnance, mon enfant Timothée. » Mais par contre, au début du chapitre 2, « J'exhorte tout, donc avant toute chose, à ce qu'on fasse des prières et des supplications. » C'est quelque chose de très général pour tout le monde. Et c'est intéressant, c'est profitable quand en étudiant cette épître, de voir justement qu'est-ce que Paul dit à Timothée, pour lui plus particulièrement. Dans une certaine mesure, avec certainement un grand écart, on peut se mettre à la place de Timothée, on peut essayer de se mettre à la place de Timothée, recevant ces choses-là. Qu'est-ce que, à travers ce que Paul dit à Timothée, le Seigneur peut avoir à me dire à moi ? Et les choses plus générales, elles nous concernent tous. Qu'est-ce que Paul, à travers ce qu'il rappelait à Timothée, il peut maintenant avoir à nous dire de la part du Seigneur pour nous tous ? Un dernier point juste que j'ai oublié de dire avant, en parlant de Timothée lui-même, on fait souvent la lecture des deux épîtres comme si elles se suivaient. Si on regarde par rapport au parcours, au chemin de Paul, on peut penser qu'il y a un bon nombre d'années entre ces deux épîtres. Il peut y avoir, je ne sais pas si c'est 4, 5, 10 ans, mais il peut y avoir bien entre 5 et 10 ans entre ces deux épîtres. Ce ne sont pas des épîtres qui se suivent, comme par exemple la première et la deuxième aux Corinthiens. Ce sont deux êtres qui sont deux instants du chemin de Paul et de Timothée, où Paul écrit à Timothée. Et en ce sens-là, les allers-retours qu'on peut faire avec d'une épître à l'autre, il y en a parce que c'est la même personne qui écrit à la même personne, il nous faut les voir comme étant écrites dans des temps différents, dans des circonstances différentes, de l'un et de l'autre, de Paul et de Timothée.
Je pense que Timothée était quand même relativement jeune, puisque l'apôtre, au 4e chapitre, au verset 12, il dit à Timothée que personne ne méprise ta jeunesse. Donc, sans doute qu'il était... Un jeune croyant qui était sans doute avancé spirituellement, mais qui était quand même encore relativement jeune. Alors là, la première épître à Timothée, donc on l'a déjà exprimée, est l'épître de l'ordre dans la maison de Dieu. On pourrait donner... Maintenant, on a donné quelques éléments qui concernent la première épître à Timothée, la deuxième épître à Timothée, la première épître à Tite, et la première épître et l'épître à Philémon. Pour en donner quelques pensées sur chaque chapitre de la première épître à Timothée. Et dans ce premier chapitre de la première épître à Timothée, donc nous avons dit en arrière-plan qu'elle nous parle de la maison de Dieu et de l'ordre dans la maison de Dieu. La première épître, le premier chapitre de cette épître nous indique comment on entre dans la maison de Dieu. Quel est le portail, quelle est la porte d'entrée pour être dans la maison de Dieu. Et nous lisons au verset 14, « La grâce de notre Seigneur a surabondé avec la foi et l'amour qui est dans le Christ Jésus. » Eh bien, c'est la grâce de Dieu qui nous a poussés à la repentance. Eh bien, nous sommes nés de nouveau, et l'apôtre Paul se donne un exemple. Eh bien, c'est la grâce de Dieu qui est le portail, qui est la porte d'entrée pour entrer donc dans cette maison. Nous appartenons à la maison de Dieu. Et c'est la grâce de Dieu qui a surabondé envers nous, qui nous a introduits dans la maison de Dieu. dans le deuxième chapitre, en particulier dans les premiers versets du deuxième chapitre, l'apôtre dit « J'exhorte donc avant toute chose à faire des supplications, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. » Alors, le chapitre 2 nous enseigne qu'en entrant dans la maison de Dieu, eh bien, nous découvrons que c'est une maison de prière et que ces prières doivent monter pour toutes les nations, pour tous les hommes. Et donc la maison de Dieu a un caractère évangélique. Et les hommes et les femmes qui la composent doivent s'y comporter avec piété pour qu'ils aient ce témoignage vis-à-vis des hommes qui ne sont pas encore sauvés et leur indiquant par notre attitude que cette maison de Dieu est ouverte pour tous ceux qui, par la foi, sont sauvés. Le troisième chapitre nous indique que ceux qui exercent une fonction dans la maison de Dieu doivent être marqués par certains caractères. Et nous voyons que ces caractères concernent le surveillant, concernent les serviteurs, concernent les servantes et concerne au fond tout ce qui compose cette maison. Et quel est ce caractère? Eh bien, c'est refléter celui qui nous a sauvés en montrant que nous suivons ses traces. Le quatrième chapitre nous indique de quelle manière l'Esprit de Dieu parle dans sa maison. Nous le voyons dans le premier verset du chapitre 4. Il nous est dit « L'Esprit dit expressément qu'au dernier temps, etc. » Donc nous voyons que dans la maison de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui parle. C'est l'Esprit de Dieu par des instruments appropriés, choisis. Eh bien, il parle et dans les premiers temps, et le temps des apôtres et le temps de Timothée, nous savons que l'Esprit de Dieu parlait par révélation et par inspiration. Mais actuellement, l'Esprit de Dieu continue à nous parler par ses instruments et surtout et essentiellement par la parole de Dieu. C'est-à-dire que nous devons être absolument attentifs quand dans l'assemblée, Dieu nous parle par l'Esprit, par le moyen de ses instruments qu'il aura choisis. Donc nous voyons, premier chapitre, quel est le portail, quelle est la porte d'entrée dans la maison, c'est la grâce de Dieu. Dans le chapitre 2, nous découvrons en entrant dans cette maison que cette maison a un caractère évangélique, mais que c'est une maison de prière. Le troisième chapitre nous indique quels sont les caractères que doivent porter ceux qui habitent dans cette maison, que ce soit les surveillants, les serviteurs, les servantes, quiconque habite dans cette maison. Le quatrième chapitre nous indique donc que l'Esprit de Dieu parle dans sa maison par l'intermédiaire de ses instruments et en particulier par la parole de Dieu aujourd'hui qui est complète. En particulier, au verset 6, il nous est parlé des paroles de la foi, de la bonne doctrine. Les cinquième et sixième chapitres de l'Épître à Timothée, on peut les regrouper ensemble, nous donne des détails pratiques et les avertissements en rapport avec ces détails, afin que cette maison soit bien ordonnée, qu'il y ait cet ordre divin que Dieu attend de ceux qui habitent dans sa maison, c'est-à-dire au fond que ceux qui habitent, ils aient une attitude qui est digne de cette maison, digne du Dieu à qui elle appartient. C'est la maison de Dieu et nous devons avoir une attitude digne dans cette maison parce que c'est la maison de Dieu. Pensée générale. Nous savons que dans la chrétienté, il y a beaucoup d'enfants de Dieu disséminés partout. Et un des buts, sans doute, de la première épître à Timothée, c'est le fait que Dieu ne désire pas que ses enfants s'arrêtent au fait d'être sauvés, et simplement sauvés. Mais manifestement, nous voyons que la pensée de Dieu, c'est que ses enfants doivent comprendre et qu'ils sachent qu'ils appartiennent à la maison de Dieu. À la maison de Dieu, avec ses privilèges, mais aussi avec ses responsabilités. Et connaissons sans doute des chrétiens qui s'arrêtent au fait d'être sauvés, et bien sûr c'est une joie pour chacun de nous de savoir que des personnes sont passés de la mort à la vie et que la grâce de Dieu les a poussés à la repentance et que ce soit véritablement des enfants de Dieu. Mais voyons à travers la première épître à Timothée, c'est ce que Dieu désire encore plus, c'est que ses enfants sachent qu'ils appartiennent à la maison de Dieu maintenant, avec tous les privilèges de la maison de Dieu, ça c'est plutôt l'épître aux Éphésiens, et avec tous ces privilèges, mais aussi avec toutes les responsabilités qui sont les nôtres, quand nous savons que nous appartenons à la maison de Dieu, et l'apôtre va nous indiquer un peu plus loin comment nous devons nous conduire dans cette maison. Encore une pensée générale qui est introduite dans le premier verset du premier chapitre. Paul, apôtre de Jésus-Christ, selon le commandement de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance. Dans les deux épîtres à Timothée et à Tite, Dieu nous est présenté et se présente comme le Dieu sauveur. Et il est mentionné au verset 2 de la part de Dieu le Père, mais dans ses épîtres pastorales, Dieu n'est pas présenté comme le Père avec ses enfants, dans ses rapports avec ses enfants, mais il se présente comme le Dieu sauveur et qui désire que tous les hommes soient sauvés. Nous savons que dans l'Ancien Testament, Dieu se présentait comme le Dieu législateur, C'est lui qui a donné la loi, les 10 commandements. Donc l'Ancien Testament, c'est plutôt le Dieu vu comme le législateur. Mais dans la première épître à Timothée, dans les épîtres pastorales, c'est Dieu sauveur, c'est le Dieu sauveur, ce Dieu qui désire que tous les hommes soient sauvés. Et nous voyons que la période de la grâce est déjà introduite quand cette épître a été écrite. Et Paul se présente donc, quand il écrit, il se présente d'abord, comme cela se faisait autrefois pour authentifier les lettres qui étaient écrites, c'est-à-dire celui qui écrivait cette lettre, eh bien il se présentait d'abord, maintenant on fait l'inverse, hein, en général on signe en bas des lettres que nous écrivons. Donc Paul se présente avec toute l'autorité que Dieu lui a donnée et que Jésus-Christ lui a donnée. Hein, c'est envoyé de Jésus-Christ, mais c'est selon le commandement de Dieu. Donc, la portée de la première épître à Timothée, nous voyons que Dieu parle. Hein, c'est ce qu'il écrit, c'est comme envoyé de Dieu, envoyé apôtre de Jésus-Christ, mais selon le commandement de Dieu. D'où l'importance de toutes ces instructions que l'apôtre donne à Timothée et en ce qui nous concerne. Encore un mot sur, il nous est dit, de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus. Là, il nous est dit du Christ Jésus et non de Jésus-Christ. Alors, quand l'apôtre parle du Christ Jésus, c'est-à-dire il parle d'abord de Christ, il voit donc Christ qui est dans le ciel. Il le voit comme déjà, et comme il était, ressuscité dans le ciel. C'est l'enseignement de Acte 2, c'est-à-dire Dieu l'a fait, Christ est Seigneur. Et donc, cela souligne encore l'importance de ces instructions, parce que c'est le commandement de Dieu envoyé par Jésus-Christ, et Christ Jésus et le Seigneur est vu dans le ciel, dans son exaltation dans le ciel, et il a été reçu et il est à la droite de Dieu, il est ressuscité. Et donc ces instructions, nous voyons qu'elles viennent aussi d'un Christ qui est ressuscité et qui a cette autorité qui lui a été donnée au Seigneur comme fils de l'homme et maintenant exalté dans le ciel. D'où l'importance des instructions que nous avons dans la première épître à Timothée. Et en peu de mots, nous voyons que l'apôtre nous montre son autorité. Et son autorité d'apôtre, autorité qu'il a reçue de la part de Dieu, du Dieu Sauveur, mais aussi de la part de Jésus-Christ, mais un Christ qui est ressuscité et dans le ciel. Alors qui, on pourrait ajouter que si l'apôtre nous parle de l'ordre dans la maison de Dieu, eh bien, pour qu'il y ait de l'ordre, il faut des autorités. S'il n'y a pas d'autorité reconnue dans une maison, c'est le désordre. Dans une famille, si les enfants ne reconnaissent pas l'autorité du père et l'autorité de la mère, nous savons que les enfants seront dissipés. Eh bien, l'apôtre se présente avec toute l'autorité qui vient de Dieu pour justement donner ses instructions pour qu'il y ait ce bon ordre dans cette maison, la maison de Dieu.
peut-être juste donner une pensée courte sur ce premier paragraphe. On voit déjà quant à cette maison, la position de Dieu est notre position. Dieu est présenté comme le Dieu sauveur qui donne les commandements, comme l'espérance, le Dieu et Père du Christ Jésus, notre Seigneur. Et de notre côté, certainement, il y a une instruction particulière dans ces trois mots: grâce, miséricorde, paix. Nous voyons que, généralement, Paul, quand il commence une épître, il dit « grâce et paix à vous ». Dans toutes les autres épîtres, sauf à Timothée, c'est comme cela. Mais ici, il rajoute la miséricorde. Et certainement que il en parle particulièrement au verset 13, au verset 16, mais miséricorde m'a été faite pour celui qui est dans la maison de Dieu. Il sait que il n'y est que par miséricorde. Dieu l'a pris dans sa misère. Et certainement, nous devons le garder à l'esprit quand nous étudions cette épître aussi. Même si nous avons été élevés de dessus le fumier, tant que nous sommes sur la terre, nous avons besoin de cette miséricorde. Aussi de cette grâce pour nous donner la paix. Grâce, miséricorde, paix de notre côté.
Ce qui a été relevé tout à l'heure concernant la manière dont est présenté Dieu, notre Sauveur, et Christ Jésus, notre espérance, c'est en rapport avec Paul, apôtre de Jésus-Christ, sur le commandement. Pour ce qui concerne ce que Paul demande, souhaite pour Timothée, on retrouve Dieu le Père et le Christ Jésus, notre Seigneur. Mais je voudrais m'arrêter plus particulièrement sur cette expression, à la fin du verset 1, « Christ Jésus, notre espérance ». Ce n'est pas une expression très fréquente, comme ça, présentée comme ça. Bien sûr, notre espérance, elle est en Jésus, mais elle est dans deux manières, peut-être qu'on peut voir d'autres facettes, mais j'en vois deux facettes. Notre espérance, en ce sens que c'est lui que nous attendons, c'est la première chose auquel on penserait en voyant l'expression simplement « le Christ Jésus, notre espérance ». Mais il y a aussi une autre facette. Il est le moyen pour que nous ayons espérance. Il est le seul moyen. Par lui, nous savons ce que c'est qu'avoir une espérance. Nous connaissons l'espérance. Avant, nous n'avions pas d'espérance. Nous avions peut-être des espoirs, de vagues espoirs. Sans Dieu, sans espérance dans le monde. Épître aux Éphésiens. Mais en Christ, nous avons maintenant une espérance. C'est très beau cette expression. Et Dieu qui est présenté d'une manière, Dieu dans son absolu, notre Sauveur. Dieu est notre Sauveur. Par Jésus. Mais qui lui est là comme celui qui nous a donné cette espérance.
Juste une remarque sur
D'abord, Jésus, notre espérance, c'est une expression unique dans la parole de Dieu. Il y a le Dieu d'espérance, Romains 15, mais c'est une expression unique. Hein, c'est Jésus qui est notre espérance. Et ce qui est frappant, c'est, il est dit, le Christ Jésus, c'est-à-dire un Christ ressuscité. Hein, c'est Christ, hein, Dieu l'a établi, Christ est Seigneur. Donc c'est un Christ qui est dans le ciel qui est notre espérance. Ce n'est pas un Christ qui est mort et dans le tombeau. C'est un Christ qui est ressuscité, qui est dans le ciel. Alors, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu. Et les trois caractères qui sont assurés pour Timothée, au fond, ils nous sont assurés aussi. C'est-à-dire, cela veut dire que Dieu, dans son amour, est absolument conscient de toutes les difficultés que nous allons traverser. Et donc Paul, il savait pour Timothée qu'avec la mission qu'il lui confiait, en particulier pour Éphèse, Timothée allait rencontrer des difficultés. Et donc, il veut dire dans cette expression, qui n'est pas une expression banale, mais il veut dire que Dieu, dans son amour, dispensera au moment convenable cette grâce, cette miséricorde et cette paix à Timothée. Et il fallait que Timothée soit assuré que Dieu, dans son amour, allait lui dispenser ces choses. Et c'est la même chose en ce qui nous concerne, c'est-à-dire au fond, nous pouvons traverser des difficultés de toutes sortes, dans ce monde, en famille, en assemblée, mais au fond, l'apôtre, à travers cette expression remarquable, il nous assure que Dieu, dans son amour, va nous donner ce dont nous aurons besoin. Et que Dieu a toujours pleine conscience de tout ce que nous traversons, de tout ce que nous connaissons, en bien, en mal, en difficulté, et il va nous donner et il va nous dispenser absolument tout ce que nous avons besoin.
J'ai une question. Quand tu dis le Christ se rapproche au Seigneur ressuscité, acte 2, je suis d'accord, je vois bien, mais pourtant, Matthieu 16, Pierre dit, tu es le Christ, le fils du Dieu vivant. L'évangile de Jean, André a trouvé le Messie. Philippe dit à Nathanaël, nous avons trouvé celui dont Moïse a parlé, c'est le Christ aussi. Donc c'était avant la résurrection.
Il semble que chaque fois que l'apôtre utilise cette expression, il ne le fait pas systématiquement. Quelquefois c'est Jésus-Christ, quelquefois c'est le Christ Jésus. Ça souligne le fait que Christ est ressuscité. Ça donne une portée à ce moment-là. Je ne peux pas vous dire exactement où sont ces passages, mais il y a toujours une portée. C'est-à-dire que nous regardions vers le ciel où Christ est ressuscité. Et l'aide que nous avons besoin en traversant cette terre comme pèlerins étrangers. Et dans chaque fois que l'apôtre, il ne le fait pas chaque fois, mais dans certaines circonstances, il dit le Christ Jésus. Et nous voyons qu'à ce moment-là, nous sommes appelés dans les épîtres où cette expression est indiquée, à regarder vers le ciel, où Christ est assis à la droite de Dieu. Il faut rechercher.
Je vous pose la question, c'est vrai, vous en profitez. chanter au 148.
148.